Micro ouvert.
Je crois quand même, alors ça c'est encore une opinion personnelle que je donne, je crois quand même que l'homme doit garder une certaine, comment dire, une certaine attitude noble dans son ménage. J'entends par attitude noble celle qui consiste à ne rien faire. Les nobles de l'Ancien Régime, en effet, autrefois, considéraient comme dégradant de travailler. Eh bien, il me semble que dans une certaine mesure, bien entendu, et avec un certain nombre d'aménagements, il doit y avoir de la part de l'homme, à l'égard de sa femme, un certain retrait. Il y a des choses qu'il ne doit pas accepter de faire comme ça, pour le principe, non pas parce que ça l'embête particulièrement. Moyennant quoi, je pense que la femme doit pouvoir l'estimer davantage et de ce fait être plus heureuse, parce qu'une femme ne me semble devoir être heureuse que lorsqu'elle estime véritablement et lorsqu'elle obéit à l'homme qu'elle a choisi. Une femme qui commande, c'est pas beau, et je pense pas que la femme qui commande soit très heureuse.
C'est la trouvaille de la semaine. Sur le net. C'est en 1963, c'est une archive de l'INA, l'égalité des sexes selon Jean Dutour. Et évidemment que ce Jean Dutour, ben évidemment, c'est un écrivain, prix Goncourt, 1955. Voilà, il s'exprime à la télévision sur ce qu'il estime être l'attitude noble d'un mari. Ne rien faire dans son ménage. Et alors j'adore le type qui l'interview. Je suis d'accord avec vous. Excellent, hein. Enfin bon, c'est parti pour la rencontre ici avec Serge Gilbert.
Gilbert.
Voilà, Gilbert. Attends, c'est pas facile, hein. T'es d'accord avec... J'imagine qu'on fait souvent l'erreur. Gilbert.
Très souvent l'erreur, oui.
C'est comme il y a quelque chose qui est... Bon, Serge.
Oui, c'est plus simple.
Oui, hein. Je te rencontre, pourquoi ? Parce que c'était les journées internationales de la prison, tu dis ?
Nationale de la prison.
Mais pourquoi j'ai dit internationale ? Ça l'est pas, non ?
Mais c'est-à-dire que
J'ai vu section belge, c'est les journées...
Ça, c'est pour l'Observatoire international des prisons. Donc il y a des sections dans différents pays, surtout en France et en Belgique. Mais pour ce qui est des journées nationales de la prison, elles se déroulent en même temps aussi en France et en Belgique. Mais ailleurs...
Ce serait génial, non ?
Oui, ce serait génial, bien sûr. Comme les observatoires, parce que dans certains pays, on va dire plus surveillés par l'État comme la Turquie, il y a des groupes qui surveillent les prisons, mais ils surveillent les prisons en catimini pour pas... se faire prendre par l'État. Et donc, nous les soutenons par des discussions, des rencontres en visio, mais ils n'ont pas une existence sur la place publique turque, quoi, par exemple. Ça leur est pas possible.
Et donc, la journée nationale, c'est quoi ? Ça dure une semaine ?
10 jours. Oui, à chaque fois. Toujours 10 jours.
Chaque année. Et depuis quand, alors ?
Ouh !
C'était
la 12e édition cette année. Oui.
Donc, je contacte Marie-Ève Merckx. Qui est Marie-Ève Merckx ? Je sais qu'elle fait de la culture, tu connais, hein, la culture en prison. Elle essaye d'amener de la culture en prison. Attends, c'est quand même le truc, bon. Là, c'est plus de mettre du... Bon, chapeau pour le travail, hein, c'est pas ça, mais c'est genre... ouais.
Mais
bon.
Ça fait partie, si tu veux, ça fait partie de ce qu'on appelle... la loi de principe, hein, donc il y a une loi qui a été créée en 2005, et cette loi, elle doit permettre que l'ensemble des droits fondamentaux soit accessible aux détenus.
Ça n'était pas avant ? Bon, c'est drôle.
Ça n'était pas en tout cas écrit. Il y avait peut-être des gens qui y veillaient. Ou
les droits de l'homme.
Mais oui, mais non, ce n'était pas écrit avant 2005. Il n'y avait rien d'écrit à ce niveau-là. Hein. Donc... c'est un lieu de punition uniquement, c'est de toute façon un lieu de privation de liberté. Donc, des auteurs, des hommes politiques disent souvent que la prison, c'est un lieu où le seul droit qui est empêché, c'est celui d'aller et venir. Hein, c'est le droit à la liberté, c'est celui-là qui est enlevé. Et que tous les autres droits doivent être accessibles, dont le droit à la culture, donc Marie-Ève travaille pour une association qui s'appelle la SBL Cap Culture, hein, dont je suis administrateur, en fait. Et donc là, il s'agit d'une convention qui a été passée avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, fédération qui a fait un accord aussi avec la justice pour permettre que la culture soit prise en compte et qu'il y ait des animations culturelles, des initiations à la culture, des bibliothèques, du théâtre, tout ce qui peut être culturel dans les prisons. Et donc le boulot de l'ASBL Cap Culture, c'est d'avoir un public, et son public sont les associations actives en prison, et ces associations faisant des activités en prison, il faut les sensibiliser à pas seulement faire, je sais pas, j'invente moi, des groupes de parole, mais à aussi faire de la sensibilisation à la musique, à la sensibilisation à la peinture, à la lecture, à tous les modes qui peuvent se désigner au niveau de la culture. Voilà. Et ça, au niveau des 19 prisons wallonnes, hein, puisque ça ne concerne pas la Flandre, hein, la convention.
Et donc c'est Marie-Ève qui me branche sur toi, parce que tu n'as pas quelqu'un qui pourrait raconter des trucs intéressants sur la prison, tout ça, et me voilà, et nous voilà. Mais peut-être, si tu te présentais un petit peu, toi, oui, Serge, oui, oui. T'es qui ? D'où tu parles, quoi ? C'est pas qu'on fait la police pour savoir qui tu es, mais d'où tu parles, au fait ?
Ok. Donc, d'où je pars ? D'où je pars ? Je suis quelqu'un qui a toujours travaillé au niveau de l'enfance, au départ, hein. Et j'ai travaillé en psychiatrie infantile, donc des enfants qui présentent autisme, psychose, troubles du comportement. Et puis à un moment donné, ben, l'INAMI a décidé que c'était des mômes bien trop difficiles pour eux et ils n'ont plus subventionné ce genre de lit. Donc ben, il a fallu trouver un autre boulot et j'étais déjà âgé.
Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus ces enfants ?
Ah ben ça c'est tout le problème. En hôpitaux, retourner chez les parents, avec toutes les difficultés que ça pose, puisque ce sont des enfants qui présentent des doubles diagnostics la plupart du temps, donc dont personne ne veut, en fait, en gros. Hein. Avec de telles difficultés qu'il fallait bien une équipe bien accrochée pour pouvoir s'en occuper. Et donc, me voilà à la recherche d'un boulot. Et puis je vois, tiens, il y a moyen de faire du soin psychiatrique en prison. Parce qu'en fait, en 2007, il y a, suite à différentes plaintes, différentes sanctions, je sais pas comment les dire, mais en tout cas, la Cour européenne des droits de l'homme reproche à la Belgique de ne pas traiter humainement, dignement, les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques en prison. Ce qu'on appelle les internés actuellement. Donc, il crée une circulaire qui met très rapidement en place, en fait, une séparation entre le soin et l'expertise. Avant, si tu veux, c'était les experts, ceux qui font les évaluations, ceux qui rendent des rapports aux juges, et des choses comme ça, qui faisaient en même temps le soin.
Mais quoi, c'est des experts, quoi, des avocats, des juges, c'est qui ces experts ? Tu deviens expert de quoi ?
Oui, oui. Non, ces experts sont des fonctionnaires, hein, comme nous, psychologues, assistants sociaux, psychiatres, c'est les trois fonctions. Et donc, ils forment à chaque fois des trios, et ce trio a plusieurs dossiers à traiter et doit rendre un avis. Comme le procureur du roi rend un avis, comme la direction rend un avis, pour éclairer la chambre de protection sociale, comme on l'appelle actuellement. Donc on arrive, nous, là, dans cette situation-là, avec des équipes déjà en place, qui faisaient pour elles déjà du soin. C'est remis en cause parce qu'il est impossible de pouvoir faire du soin correctement et être en même temps dans le... Je ne vais pas dire la répression, hein, parce que ce n'est pas tout à fait dans cet ordre-là qu'ils sont, mais en tout cas... d'être juge et partie dans cette histoire. Donc on sépare les deux choses et on dit, il y a une équipe soins qu'on met en place. Alors...
C'est toi ça ?
Oui.
C'est toi qui arrive.
Oui, c'est moi qui arrive avec d'autres.
Ouais, hein.
Au départ, on est 9. On a un bureau de 9 mètres carrés, à peu près. Ça commence bien.
C'est génial parce que tu démarres quelque chose, quoi. Ça n'existait pas avant, si je comprends bien, et donc il y a une porte qui s'ouvre en avant. Peut-être tout est possible. Évidemment que non, en prison. Mais moi, j'avais aussi envie de faire une petite parenthèse. Hein. Il paraît qu'en prison, ça va très mal. Hein. Mm-hmm. Voilà. Oui. Il paraît qu'en prison, c'est la merde. Enfin, en prison, oui. Enfin, voilà, on, oui, c'est vraiment un domaine. Il n'y a pas de projecteur dessus. Enfin, voilà, c'est. Voilà, j'avais envie de dire ça.
Oui, c'est.
Pour continuer ton histoire aussi.
C'est effectivement un lieu où très vite tu te rends compte que tu n'es pas le bienvenu. Hein, que les gens qui sont là pour faire du soin, pour accompagner de manière intensive les gens, ne sont pas bien vus. On pourrait dire que...
Mais ils ne sont pas bien vus par qui ?
Mais par les agents essentiellement au départ, tant qu'on ne se connaît pas. Ce qui est important pour les agents, c'est qu'il y ait le moins de mouvement possible dans une prison.
Les agents, c'est gardiens, quoi. Moi, j'ai un peu les gardiens oui, de la prison. Quoi.
Oui. On appelle ça maintenant des assistants de surveillance pénitentiaire. Hein. Je joue beaucoup sur les mots sur une série de choses. Ce qui ne change rien, hein, la plupart du temps. Mais pour eux, leur job, c'est la sécurité. Comment est-ce qu'on joue la sécurité dans une prison ? C'est avec le moins de mouvement possible. Et donc, à partir du moment où il y a des gens qui entrent dans une section pour dire « J'aimerais bien voir monsieur, pouvez-vous l'amener au bureau ?» ou, hop. Alors on te dit « Ah, c'est quoi cette histoire ici ?» ça ne va pas le faire, quoi. Donc, il faut commencer à s'ajuster. Il y a des jours où tu arrives à la prison. J'ai commencé à la prison de Forêt. Hein. Où tu arrives et on t'ouvre la porte et on te dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire là aujourd'hui ?» Tu ne pourras pas travailler. Nous ne sommes pas assez nombreux. Nous sommes chargés de votre sécurité. Et donc, ça ne va pas le faire. Mais ça, ce n'est pas une fois par semaine. Hein. C'est plusieurs fois par semaine. Parfois des semaines entières.
Mais ça, j'ai du mal à comprendre, quoi. Parce qu'au départ, on dit que c'est une nouvelle politique, entre guillemets, hein, qui se met en route. Mm-hmm. On doit dissocier les experts du soin, voilà. Et puis, d'un autre côté, c'est la bataille pour continuer à ramener un peu d'humanité dans la prison. C'est ça que je ne comprends pas, moi. Tu comprends ma question ?
Oui, tout à fait. Mais comme je te disais, c'est tout le problème du sécuritaire. Déjà que les internés sont vus comme des gens plus dangereux que la moyenne des détenus dans une prison.
Oui, alors que la majorité est là pour par survie, par comment dire matériel à la base, et puis ça devient peut-être aussi psychologique, mais c'est pas des dangereux exagérément, je sais pas.
Non. Quand on dissèque la population d'une prison, tu as très certainement au moins 30% des gens qui entrent avec une maladie psychiatrique, qui l'ont avant. Hein. Tu as essentiellement des gens qui sont pauvres, des gens qui n'ont pas eu accès à l'éducation, des gens qui viennent de pays étrangers, donc qui ont vécu des traumatismes, qui provoquent aussi des troubles psychiatriques. Enfin, donc tu as une population très très marginalisée, très précaire.
C'est important de le dire, ça, parce que, enfin...
Il ne faut pas penser qu'une prison est remplie de violeurs, est remplie de tueurs, des choses comme ça. Ce n'est pas du tout la réalité. La réalité d'une prison, c'est des voleurs, multirécidivistes parfois, mais les attaques contre les personnes sont assez, assez rares, finalement. Tout en sachant, c'est un truc que l'on connaît en criminologie, c'est que se trouve donc dans les prisons un public visible, parce que dans la précarité, ça se voit la précarité, d'autres origines, ça se voit les autres origines, avec des troubles psychiques, ça se voit les troubles psychiques, tandis que moi, blanc, t'as 20 fois plus de chances d'être arrêté en tant que blanc, en tant que, qu'étranger, pardon, que moi. Donc, il faut s'imaginer. Moi, j'étais arrêté 3 ou 4 fois dans ma vie. C'est encore, je pense, beaucoup.
À quel âge ?
60 ans.
Ça va, hein ?
Ça va.
3-4 ans. Mais 3-4 fois.
Ça veut dire que quelqu'un de mon âge étranger a une possibilité d'avoir été arrêté 80 fois.
Pourquoi tu dis 80 fois ?
Parce que 20 fois plus. T'as 20 fois plus de chances d'être arrêté si tu es d'origine étrangère, malade, ou ayant un comportement un peu étrange en rue ou des choses comme ça, quoi. Que moi, qui suis dealer de cocaïne et qui me promène dans mon Audi et qui
Tu parles de Sarkozy, là?
Je ne parle pas de Sarkozy. J'en sais rien, si idylle.
Non, mais c'est quand même aussi ça, c'est marrant. C'est une petite parenthèse pour rigoler, mais c'est marrant. Lui, il vole, il fait des trucs, et, ben, tu vois?
Énorme, ouais.
Parce que ça aussi, c'est important, des fois, de les gens ne sont pas cons, quoi.
Non.
Et lui, il fait 20 jours de prison, il écrit un livre, en plus, pour dire que ce serait bien qu'il y ait des fenêtres. Ça lui a tellement manqué, des fenêtres.
Oui. Ah, c'est encore une fois toute la question par rapport à cette ces notions de sécurité et d'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de personne. Quand tu vois...
Ce serait pour ça qu'on enferme, quoi.
Oui, mais si tu prends des groupes comme Monsanto, BASF, Total, des choses comme ça, ils provoquent des atteintes physiques et psychiques à des tiers bien plus importants.
Mais en chemette, quoi.
Mais en chemette, oui, ou en tout cas avec l'accord des gouvernements, avec toute une série de choses comme ça. Et donc, oui, ça passe un peu de côté. Je veux dire, le type, ici en Belgique, qui détourne, je sais pas, au moins 250 000 euros, ils font jamais ça, les gars, en prison, hein.
Non.
Bon, ils sont... Non, c'est leur truc, c'est la survie, donc... Ils vont vendre du shit, de toute façon, quand ils vont se faire arrêter, on va tout leur saisir, donc ils n'auront plus rien. Donc, le principe que nous pensons premier en tant qu'abolitionnisme pénal, c'est que la prison est en soi un crime. Elle est un crime pourquoi ? Parce qu'elle est une atteinte, et c'est reconnu par les cours internationales, elle est une atteinte aux droits fondamentaux. Donc, on commet un crime contre des gens qui ont commis un délit, par exemple. Il y a beaucoup de voleurs, beaucoup de gens qui ont roulé sans permis. Il y a des profils comme ça dans les prisons. Et donc, on les traite d'une telle manière qu'on commet un crime contre eux.
Oui, limite, on en fait de plus en plus des terreurs, de la terreur aussi, parce que on les durcit, on les traite pas bien, puis supposons qu'ils ressortent, c'est encore plus la loi de la débrouille, parce qu'ils ont fait de la prison, et donc ça devient, ça n'aide pas, quoi, pas du tout, la prison.
Pas du tout, c'est-à-dire que il faut repartir aussi sur le fait que ce sont des gens précaires qui entrent en prison, et que quand ils ressortent, ben, il n'y a plus de liens sociaux. Il n'y a plus de droits sociaux. S'ils avaient un boulot, il n'y a plus de boulot. S'ils avaient des enfants, ils ne connaissent peut-être plus leurs enfants. Enfin, tous d'élite.
Ouais.
Et donc, si tu entres en prison, tu en ressors la plupart du temps plus pauvre. J'aime pas le discours. Il y a des discours comme ça de certaines personnes qui disent « on crée des bêtes sauvages ». Moi, je n'ai pas rencontré de bêtes sauvages. Hein, quand je travaille en psychiatrie. Mais pour moi, ce n'est pas des bêtes sauvages. Ce sont des gens qui sont pris dans un système... qui fait que plutôt que d'avoir pris le temps ou d'avoir investi, hein, on parle du milliard de la ministre de la Justice, là, mais...
Attends, parce que là, on parlait hors micro, ça.
Ah oui, ok, c'est
ouais,
vrai.
Ouais, non, là, tu vas devoir t'expliquer, là.
Alors, je continue. De dire que ces gens qui entrent pauvres, malades, migrants, ben, on ne leur donne aucune chance. Il n'y a rien qui se passe dans une prison. Il n'y a pas de... On parle des métiers en pénurie. Moi, je ne vois pas où on forme les gens dans les métiers en pénurie, dans les prisons. Alors que s'il y a des métiers en pénurie, et s'il y a des gens qu'il faudrait former, justement, pour qu'ils puissent s'en sortir après la prison, ça me semble un public qui est là, dans lequel on peut investir pour un certain temps. Quoi. Non. En termes de réinsertion et de... Il se passe rien du tout. Il se passe rien. Pas parce que plein de gens... Pas parce qu'on ne veut rien faire. Parce qu'il n'y a pas assez de gens pour le faire. Parce que...
Pour accompagner les prisonniers, par exemple.
Oui, mais aussi parce qu'il n'y a pas assez d'agents pour pouvoir dire... d'organiser les choses. Puisque ce sécuritaire vient supplanter tout le fonctionnement. Donc à partir du moment où une prison... se sent en danger sécuritaire, eh bien, elle ne va pas permettre les mouvements. Hein, je parlais tout à l'heure des mouvements qui sont la plus grande crainte, en fait, dans une prison.
Mais dis-moi, attends, parce qu'il y aurait plein de choses et le temps, il avance. Mais moi, j'ai envie de réagir du tac au tac, mais j'avais envie de continuer aussi avec Serge qui débarque dans la prison. Mais tu vois, je suis partagée entre... Mais j'ai envie de dire d'abord... Oui, mais il n'y a pas de volonté politique pour... Enfin, je veux dire, ça arrange bien le politique, le sécuritaire. Je veux dire, ça crée une économie parallèle, les prisons. Enfin, je veux dire, il y a tout ça à dire aussi, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de réelle volonté de changer tout ça, parce que sinon, ça ferait belle lurette que les choses auraient bougent, quoi. Donc, on... Allez, parlons pour du vrai, là. Ça crée une économie souterraine, tout ça aussi, les prisons.
Oui, et certainement dans les prisons en partenariat public-privé, actuellement. Hein, si on prend la prison de Harun, par exemple, qui aurait pu coûter, si l'État belge l'avait financée elle-même, 800 millions, elle va coûter au bout de 25 ans 1 milliard. Hein. Il y a à peu près 200 sociétés qui interviennent dans la prison de Harun. Le modèle a intérêt à tenir parce que ça fait vivre des boîtes. Dire. Et quelles sont les boîtes, hein? Donc, il y a trois boîtes essentielles, et puis il y a tout des périphériques. Hein? C'est Macquarie, qui est un des plus gros financiers, boîtes financières du monde.
Mais elle fait quoi?
Du pognon.
Oui, mais elle produit quoi?
Du pognon. Ouais, ouais. Et donc, elle fait des prêts, elle investit dans des choses.
C'est une banque, quoi?
C'est une sorte de banque, oui, oui, oui. Il y a Denis. Qui est là-dedans ici, c'est un entrepreneur, si on veut dire les choses simplement, poursuivi au Qatar parce que, par rapport à la Coupe du Monde de football, pour la mort de gens dans des conditions de travail innommables, ben, ce n'est pas des enfants de cœur. Hein. Et ce sont ces gens qui ont construit, qui maintiennent, qui ont financé et qui ont designé la prison, avec la demande de l'État. Donc on est lié avec ces gens pendant 25 ans, avec des astreintes, au cas où il se passe certaines choses. Tout, et donc, évidemment que ça leur rapporte à ces gens-là. Ils ont intérêt, quelque part, à ce que les prisons soient le plus remplies possible. Ils ont quand même mis une clause, parce que c'est très difficile pour les députés d'y voir clair. Les chiffres sont caviardés, hein, en fait, dans les documents. Parce que Macquarie a réussi à faire valoir que les chiffres leur appartenaient.
Secret d'affaires.
Oui, quelque chose comme ça, probablement, je ne connais pas.
En France, je sais que c'est ça, maintenant.
Oui, mais c'est un peu ça.
Tu ne peux pas venir avoir... Tu peux pas aller voir les infos, c'est secret d'affaires, quoi.
Mais tu peux... C'est-à-dire qu'il y a un de nos députés écolos, Groun, qui a essayé, donc il s'est retrouvé dans un box, sans téléphone, sans quoi que ce soit, c'est juste un bic et du papier, avec un document, mais comme on les voit dans les films de la CIA, là tu vois, avec des grands traits noirs, partout où il y avait les chiffres, donc un document incompréhensible. Il a le document, mais un document incompréhensible, tu ne sais pas analyser. Donc eux ont intérêt que ces prisons soient remplies,
soit rentable, ça fait... Oui, il faut en faire d'autres encore.
Oui, parce qu'il y a des sociétés qui font à manger.
Mais surtout, il faut attraper les petites gens, là, en avant. Allez, hop, on les enferme, et en avant.
Et je ne sais même pas dans quelle position on se trouve par rapport au fait... Je ne pense pas qu'il y ait un lien. La seule chose où il y a un lien, c'est qu'il y a l'appel d'air. Quand il y a des places, les juges ont tendance à se dire... Plutôt que de risquer quelque chose et qu'on vienne me retomber sur la tête après parce que j'ai libéré quelqu'un trop vite ou je ne l'ai pas mis sous bracelet ou autre chose comme ça, je le mets en prison comme ça, je suis rassuré moi-même. Mais c'est pas la solution non plus, je veux dire.
Bah là-dessus, j'ai entendu que toi aussi, sûrement dans l'aide à la jeunesse, ça craint. Il n'y a plus assez de place pour les jeunes. Tu vois, c'est où on met aussi... où le gouvernement met l'argent aussi, tu vois. C'est ça.
On revient au milliard.
Oui, c'est... Non, mais dans la prévention, oui, tu vois, je veux dire, on sait que dans l'aide à la jeunesse, les enfants qui ont des problèmes, qui font partie de l'aide à la jeunesse, c'est les premiers qu'on retrouve dans la rue, à vivre dans la rue après, parce que c'est pas évident.
Ils ont bu de chez eux, ils ont souvent été... Ils ont fugué, ou ils sont partis...
18 ans, ils sont censés se débrouiller dans la vie.
Aussi, mais ils ont été mis dehors, il se passe toutes sortes de choses. Le tout, notre réaction par rapport à la demande de Mme Verlinden de dire Je voudrais 1 milliard pour pouvoir construire 2000 places de prison en plus.
Et qui est Madame Verlaine?
C'est la ministre de la Justice.
Enchantée, madame.
C'est de dire que à ce milliard, on ferait mieux de l'investir dans les soins, dans l'éducation, dans l'aide à la jeunesse, mais dans tout ce qui permettra que l'ensemble de la population ait un accès le maximal aux droits fondamentaux. On revient aux droits fondamentaux en disant, si les droits fondamentaux ne sont pas respectés à la base, si des gens se retrouvent sans logement, se retrouvent à la rue, ne sont pas correctement accueillis, se retrouvent pris dans des gangs de trafic de drogue, choses comme ça, qui est-ce qu'on retrouve comme vendeur? C'est des migrants.
Sarkozy. Bon. Ça pour rire. Sarkozy. Qui est-ce qu'on retrouve? Toujours les mêmes.
Oui, toujours Sarkozy. Et donc...
Mais toi, Serge, parce qu'il y a là, il y a 25 minutes. Waouh, ça va vite, hein.
Oui.
Allez, 25 minutes. 15 minutes, 20 minutes. Revenons à toi, si tu veux bien. Hein, sauf si okay. Tu veux pas, hein, je veux dire, moi, Serge, qui découvre la prison. Tu travailles là combien d'années? C'est quoi ton expérience? Qu'est-ce que tu as envie de... Parce que là, bon, évidemment, on a échangé, on voit bien, oui, on connaît tout ce qu'on dit, là, non? Combien d'années t'as travaillé, toi, du coup, alors?
16 ans. Donc, ça fait 16 ans que je suis employé par le SPF Justice, hein, toujours dans par rapport à cette problématique de l'internement. Hein.
Et toujours au même endroit, ou bien tu bouges?
Non, j'ai bougé, en fait... On était à Forêt au départ. Forêt tombait de plus en plus en ruine. Il y avait des problèmes de sécurité, incendie, des choses comme ça. Donc, on nous a déplacés à Saint-Gilles. Et de Saint-Gilles, on nous a déplacés à Arnes, par après. Le problème qu'il y a toujours eu dans le soin, c'est qu'il n'y a pas de cadre. Donc, on était 9, on s'est très rapidement retrouvé à 4 ou 5, puis à 3. Je suis le dernier de cette équipe-là, d'il y a 15 ans.
Quoi, ça veut dire qu'il n'y a pas la suite? Ça se termine avec toi?
Non, il y a des gens qui ont été engagés depuis. Hein. Je veux dire, des gens du départ, à part un psychiatre, on est deux, donc, voilà. Oui, il y a des gens qui ont été engagés depuis, mais toujours trop peu. Si je peux faire une comparaison, qui n'est pas raison, quand je travaillais en psychiatrie infantile, j'avais un temps plein par enfant. Ok ? Ici, il y a 170 patients et on est 10. Hein ? Tu fais le ratio et tu vois tout de suite qu'on n'y arrive pas. Le ratio rêvé est de 0,33 par patient. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait être actuellement, puisque ça augmente tout le temps, au moins 60. Donc 6 fois plus que ce qu'on a actuellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont laissés à eux-mêmes, très probablement. Enfin, ça doit être... Par exemple, si je prends mon cas, je suis seul. Hein, d'autres sont plus nombreux, donc ils peuvent se répartir les patients. Ça veut dire 170 patients. Si je veux m'occuper de chacun, rencontrer chacun, je ne sais les voir que tous les 2 mois, 2 mois et demi. Hein?
C'est
pas possible, évidemment. Et encore, dans l'idéal, hein, puisque le sécuritaire peut encore venir te dire, aujourd'hui, il n'y aura pas d'entretien, aujourd'hui, il n'est pas bien, on ne te l'amène pas, aujourd'hui, il y a ceci, aujourd'hui, c'est grève, aujourd'hui, c'est service minimum. Donc, ton idéal de te dire « je projette une manière de fonctionner », je me rends compte déjà que c'est 2 mois, 2 mois et demi, c'est déjà fou. Tu te dis « ça va déjà pas ». Mais dans les faits, ça peut monter à 3 mois, 3 mois et demi, vu qu'il y a des moments d'arrêt, puis des moments où tu prends congé aussi. Enfin, donc, il y a quelque chose qui est totalement, comment dire, hors sol. Mais pour avoir fait des entretiens d'embauche pour le SPF Justice d'assistants sociaux, il y en a très peu qui veulent venir aussi travailler dans le soin.
Hein? En prison, dans le soin en prison. Ah ouais ?
Oh oui, la psychiatrie, de toute façon, fait peur, hein. D'une manière.
Moi, je croyais qu'il y avait des gens motivés, des gens, ouais, tu sais.
Des gens motivés, mais peut-être que pas à venir travailler en prison, quoi.
En plus, en prison, quoi. Ouais.
En tout cas, dans les gens que j'ai rencontrés qui ont fait ces candidatures, ils étaient plus intéressés ou ils voyaient plus le travail de réinsertion, même si, hein, on l'a dit, il n'y a rien, se situer au niveau du service psychosocial. Mmh. Ben, le service psychosocial, il est tout aussi démuni que nous. Je veux dire, c'est aussi des équipes qui croulent sous le boulot et donc croulent sous le boulot, donc les gens s'en vont petit à petit, tombent malades, enfin c'est une chaîne sans fin, donc il y a de moins en moins moyen de faire des choses dans une prison. Ouais. Mais bon, là on se trouve, bon, moi j'arrive dans cette prison en 2009 avec l'intention de pouvoir accompagner des personnes qui souffrent de troubles psychiatriques et dont je sais évidemment qu'ils ont commis un délit, une contravention, un crime qui les a amenés en prison. Et tu te rends très vite compte que le système n'est pas prévu pour soigner. Il est uniquement, on n'a même pas de bureaux d'entretien. Il faut les construire avec des cloisons. Il n'y a pas de salle d'activité. Enfin, rien n'est prévu dans la prison pour faire soin. Et c'est pas un lieu de soin, une prison. Il ne faudrait jamais la considérer comme étant un lieu de soin. Ça ne devrait pas être du tout dans ces lieux-là que ça devrait se jouer. Donc tu te rends compte que ta marge de manœuvre, elle est très courte, qu'elle change en fonction de l'équipe du matin, de l'équipe de l'après-midi, qu'elle change parce que les agents changent et donc il faut recommencer, parce que la direction change. Enfin, il y a plein de choses où tu restes un peu présent, mais l'environnement bouge et donc tu dois de nouveau te réadapter continuellement. Et puis il y a ce qu'on appelle la surpopulation, que moi j'appelle le surenfermement, qui fait que il y a un moment donné où on était 4-5 à ce moment-là, il y avait 134 personnes dans la prison de Forêt, internées. Injouable, c'est vraiment un truc où là tu...
comment tu fais pour tenir? Comment tu fais pour, je sais pas...
Juste il y a peu, je tenais grâce aux patients. Et puis, les choses faisant qu'on se rend compte que le fonctionnement même du système ne vient pas te soutenir, mais vient plutôt te faire dire ou te faire croire que tout va bien, alors que rien ne va en soi, ou en tout cas, ne permet pas le soin. Hein ? Je veux dire, personne ne... Allez... À moins d'être, je ne sais pas dans quel état, mais personne ne va dire qu'à 10, on peut s'occuper de 170 personnes, quoi, correctement. C'est impossible. Pourtant, il y a les infrastructures, il y a tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas les gens pour pouvoir les utiliser. Donc ces infrastructures, à part...
C'est pour du semblant, quoi. C'est du chiquet un peu...
Elles ne sont pas là pour du chiquet, parce qu'elles ont été prévues pour être utilisées, mais elles sont inutilisées, en tout cas, à part une ou deux pièces comme ça qui sont utilisées. Ouais. Sinon, il n'y a rien qui est utilisé dans ce sens-là, par manque de personnel. Hein. Donc,
pourquoi on n'engage pas?
Mais on fait beaucoup d'engagement. Mais comme je le disais pour les assistants sociaux tout à l'heure, c'est le même jeu, je pense... mais c'est un peu partout, tu sais, dans le social, hein, il y a une grosse difficulté au niveau d'associations actives en prison pour trouver des AS, pour trouver des psys, pour trouver les fonctions essentielles à ce genre de service. C'est difficile de trouver des gens qui veulent encore travailler dans le social, et ça c'est depuis la crise du Covid certainement. On a l'exemple à Gand, hein, où ils ont plus ou moins la même population que nous, où l'équipe a pris une position en disant « Nous, on est en mesure de s'occuper de 77 personnes. » Donc, il en restait 130, je crois, sur le carreau. Donc, ils ont engagé une boîte, ils ont demandé une boîte d'infirmières de venir s'occuper des 130 autres. Mais uniquement les soins de tous les jours ou les suivis médicamenteux. Pas de faire des activités, pas faire du thérapeutique, des choses comme ça. Donc, voilà. Et encore, ils sont... Là aussi, ils sont pas si nombreux, ils sont plus nombreux que nous, mais je pense qu'ils sont une vingtaine pour 70 patients. Ça va encore, mais bon.
Et quoi, pourquoi il y a une démotivation comme ça dans le social, selon toi? C'était juste une petite oui, parenthèse.
Hein. Oui, mais selon moi, il y a eu différents mouvements hein, qui sont la non-reconnaissance de ce type de métier qui est perdure, la pression pour que les sociaux sont souvent déjà des agents de contrôle social. Hein. Le boulot de quelqu'un en CPS, c'est quelque part de faire en sorte que le contrôle social s'exerce d'une manière ou d'une autre. Et à un moment, tu en as soupé de ça. Tu ne veux plus être celui qui vient dire aux gens comment ils doivent fonctionner.
Mais tu peux faire autrement quand même. Tu peux un peu naviguer là-dedans. J'imagine que quand tu es travailleur social, tu ne fais pas ça non plus que pour... Enfin... Moi, je suis d'accord de dire que... Tu vois, c'est comme si on jouait sur différents tableaux. Par exemple, on prend l'exemple de la prison. On dit que c'est bien de faire du soin. Mais au fond, vous galérez, vous, les travailleurs. Il n'y a pas assez de gens. Il n'y a pas les conditions. C'est comme si... Oui, c'est hypocrite, voilà. C'est comme si on disait, mais on fait du soin en prison. Et en fait, quand tu vas un peu gratter, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas. Tout est fait pour que ça ne se fasse pas convenablement, quoi. C'est ça.
En tout cas, les conditions dans une institution aussi autocratique ne sont pas rassemblées pour faire correctement du soin. Ou en tout cas, c'est du soin au rabais. Ou c'est du soin ciblé. Sur certaines personnes. Hein, si tu es en possibilité de pouvoir prendre en charge 15 personnes correctement, alors qu'il y en a 170, j'appelle ça du soin au rabais. Alors on peut me dire tout ce qu'on veut, mais moi j'ai, en tout cas, éthiquement, une énorme difficulté à me dire que je ne peux pas être en capacité de pouvoir m'occuper de chacun de la même manière.
Surtout ça, mais c'est aussi que sont les autres. Comment vivent les autres personnes dont on ne peut pas s'occuper, quoi? Enfin, c'est quoi leur état, eux, elles? C'est ça aussi.
C'est aussi tout le problème de gens qui souffrent de troubles psychiatriques. Dire, si on ne s'occupe pas d'eux, pour certains, ça ne change rien. La maladie est là, ils vivent dans leur maladie, ils ne se lavent pas, ils font toutes sortes de choses. Ils sont dans leur état, et leur état les dissocie tellement du réel... que pour eux, ça ne change rien. Puis tu as d'autres pathologies où le réel est quand même plus présent et qui sont les plus revendicateurs. Et donc, c'est vers eux probablement que les travailleurs vont se retourner, parce que c'est eux qui vont parler le plus fort et dire « j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela », alors que ceux qui sont les plus silencieux, oui, les agents vont dire de temps en temps « Ouais, il fait dégueulasse dans cette cellule, il faut la laver. Hein. » Donc c'est un principe dans une prison que tu es responsable de ton lieu de vie.
Et tu dois c'est qui est responsable de sa cellule?
C'est la personne qui y vit.
Ah ouais?
Oui. Mais pour un psychotique, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, l'hygiène, des choses comme ça, c'est une des premières traces qu'on peut trouver. C'est... La prise en charge de soi-même et de son environnement, c'est une des premières choses qui vient à manquer.
Quoi, t'as vu, toi, des sales choses comme ça, en travaillant?
Oh oui, plus que des sales choses, oui. Non, enfin, pas... non, bien sûr que... À Forêt, j'ai dû racler des... Il y avait une petite marche à l'entrée, si tu veux, t'avais la porte qui se fermait.
De la cellule?
De la cellule, il y avait une toute petite marche, et donc tu entrais dans des cellules où c'était un mélange d'excréments et d'eau. Et il fallait quand même sortir les gens de là, racler tout ça, qui allait le faire? C'est un problème, mais je passe un peu du coq à l'âne, hein, mais je veux dire, il y a eu dans les prisons pendant tout un temps des gens qu'on appelait servants. Hein, on revient un peu au servage, à l'esclavage, hein, faut repenser que les mots ne disent pas n'importe quoi. Bon, des travailleurs, donc, des personnes qui sont chargées de ce qu'ils appellent, par exemple, le domestique. Donc, on pouvait demander, on avait créé une sorte d'abac, je ne sais pas comment dire, les gens qui sont capables de nettoyer, les gens qui sont incapables de nettoyer, les gens qui ne veulent pas nettoyer.
De leurs cellules, là, tu parles.
Hein. Oui, je reviens toujours sur les cellules. Pour les gens qui sont incapables de nettoyer, dire, ça s'objective facilement par l'état psychique. Et donc, on peut demander que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne nettoyer. Donc, on sort la personne. Mais on fait travailler les gens dans quelles conditions ? Ce n'est pas leur boulot que d'aller laver les excréments de quelqu'un sur des murs. Enfin, c'est... Tu vois, il y a...
Il y a un problème, quoi.
S'il y en avait qu'un. S'il y en avait qu'un.
Ouais, c'est énorme.
Et donc, plus tout le... Comment dire, tout l'appareil judiciaire qui est autour. Hein, je veux dire, enfin, ça s'est un peu calmé et pourtant, on peut y revenir. La loi avant permettait que toute personne qui soit dans un état psychique qui leur permet plus de faire la distinction entre le bien et le mal, j'utilise le mot discernement, mais c'est un peu ça, et qui s'en prend à des tiers. Avant, il suffisait même pas d'un tiers. J'entrais, je volais le verre de monsieur, je ressortais, on voyait que j'étais un peu drôle.
Je pouvais... Tu trouves ?
Moi, je trouve. Moi, j'ai connu un monsieur sans papier qui a volé à l'époque, c'est une façade d'autoradio, ça existait encore. Il a fait 5 ans à Forêt pour une façade d'autoradio. Et il n'est pas sorti puisqu'il n'avait pas de papier. Il était à Pèves après.
Pèves ?
Oui.
C'est où ça ?
Un établissement de défense sociale. Donc c'est là où vont les gens. Donc, si tu veux, la chambre actuelle.
Ici à Bruxelles ou...
Oui, c'est... Non, pas à Bruxelles. Il y en a une à Pèves, près de Liège. Voilà. Et il y en a une à Tournai. Okay. Qui n'est pas dirigée par le SPF Justice, mais par la communauté française à Tournai. C'est l'hôpital psychiatrique sécurisé des marronniers. Donc les gens se retrouvent là-dedans. Parce qu'ils n'ont pas de papier, donc on ne peut pas les mettre dans les circuits de soins habituels. Déjà, les circuits de soins sont embouteillés, quelque chose de pas possible, donc c'est très compliqué. Et donc, tu avais des gens comme ça qui, pour une bêtise, se retrouvaient des années enfermés. Hein. Et d'autres, quand je disais tout à l'heure, il y a d'autres pathologies qui sont plus dans le réel, qui avait effectivement un tableau clinique quelque peu psychotique, qui avait volé une montre, par exemple, en bande. Les potes, ils étaient déjà sortis depuis belle lurette, et eux, ils étaient encore là, quoi, pour le même fait. Hein, donc, ça provoquait des gens qui étaient soumis aux conditions carcérales pendant des années, pour des raisons qui n'en étaient pas. Ils ont changé la loi en 2014, elle a été d'application en 2016, et ils ont limité au fait qu'il devait y avoir une atteinte psychique ou physique à un tiers. Mais ils ont ajouté « ou la menace de ». Donc, on pensait une loi qui allait réduire le taux d'internement, en fait, il explose.
Qui a fait ça ? Parce que tu dis « ils ont », c'est qui ?
Ce sont des commissions qui sont des travaux parlementaires, hein, essentiellement, qui font ce genre de choses. Donc il y a des parlementaires qui se réunissent, qui rencontrent des experts,
Et qui... Quoi, des experts de la prison c'est un peu flou. Comme...
J'y vois pas très clair, mais en tout cas des médecins, certainement, et des choses comme ça. Des experts de la prison peut-être, mais moi, mais c'est une vision externe évidemment. Je n'ai pas le sentiment que ce soit des gens qui soient à l'affût ou dans la connaissance de ce qu'on fait en psychiatrie actuellement et du traitement psychiatrique qu'on peut donner aux gens, de tout ce qui concerne le rétablissement, hein, c'est une des théories actuellement où on travaille avec le patient pour qu'il puisse dire « Tiens, quand je me sens mal, j'aimerais bien qu'on fasse ceci avec moi et qu'on puisse évoluer ensemble et que le traitement ne vienne plus de l'extérieur sur la personne, mais que lui puisse aussi dire, et même, et ça arrive, moi j'aime bien qu'on me mette en contention. » En prison, c'est pas on ne sait pas mettre, enfin, nous ne voulons pas mettre en contention parce qu'il n'y a pas de surveillance médicale H24. C'est-à-dire que si tu mets quelqu'un en contention, tu dois rester à côté de lui. Il faut rester en contact avec la personne. C'est, tu ne mets pas quelqu'un attaché dans, sur un lit sans rester avec cette personne. Quoi. Ça, c'est une folie furieuse. Mais donc, on ne le fait pas parce qu'on n'est pas en possibilité de le faire. Alors que parfois, des gens le demandent. Il le faudrait bien aussi pour qu'ils ne se blessent pas. Hein, parce que bon, il y a des gens qui sont dans des états parfois qui font que bah, ils se tapent la tête contre les murs, ils font toutes sortes de choses, ils se blessent, ils se mordent, enfin, ils font toutes sortes de choses qui, dont il faudrait les protéger. Voilà, donc on recourt alors à la pharmacologie psychiatrique pour un peu abaisser les choses, mais il y a quand même un psychiatre qui va voir tous les jours. Mais l'idéal. Enfin, je pense, moi, l'idéal, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit là, qui ait quelque chose qui fasse qu'il y ait une relation qui continue à s'établir.
Comme on disait au début, qu'il y ait du soin, quoi. Basta, c'est tout, quoi. Qu'on accompagne les gens, qu'on soit gentil avec eux. Non, mais merde, quoi, un minimum.
C'est une question qui se pose souvent. Comment est-ce qu'on peut travailler avec des gens comme ça? Mais parce que c'est des humains, tout simplement. C'est des humains qui ont posé problème ou qui ont commis quelque chose d'horrible. Mais si tu les vois uniquement sur l'étiquette sous laquelle on te le présente, tu ne le traites pas comme un humain. Tu le traites comme une chose, un objet.
Comme un numéro.
Oui, c'est ça, un dossier. Alors que bah, la plupart ne présentent pas vraiment de danger criminologique. Si on distingue le danger criminologique du danger psychiatrique, le danger criminologique, il peut être constant. Quand je dis que le danger psychiatrique, une fois que tu as donné un traitement, que la personne surtout a accepté un traitement, parce que le traitement, tu n'imposes pas le traitement, tu négocies avec la personne, tu l'augmentes, tu le baisses, tu vois avec elle ce qui est le mieux, pour qu'elle se sente le mieux possible. C'est l'alliance thérapeutique qui compte, c'est ça que je voulais dire, en fait, dans le travail, tu ne traites vraiment sous contrainte que s'il y a ce qu'on appelle un état de nécessité, et encore, ça ne se passe pas n'importe comment. Donc on a quelqu'un de très agité, qui s'en prend à lui-même, qui s'en prend aux autres, et un médecin constate ça, et il demande à un deuxième médecin de regarder s'il est OK, lui aussi, de traiter sous contrainte. Donc tu vois, il y a des mécanismes pour protéger les gens contre ce genre, parce que c'est une agression aussi. Je veux dire, c'est toujours une retombée dans le traitement que de voir injecter de force. Je veux dire, c'est jamais agréable, ce sont pas des souvenirs. Ça laisse des souvenirs, c'est jamais des souvenirs agréables, donc voilà, c'est toujours compliqué. Donc il faut maintenir aussi ce lien thérapeutique tout le temps.
Ok, Serge, on arrive à la fin là.
Ouais.
Ouais. Qu'est-ce que tu vois à dire de fondamental pour clore tout ça. c'est pas clos, évidemment.
Je l'ai encore dit dernièrement devant des étudiants en droit à Saint-Louis, je pense qu'il faut sortir l'internement du droit pénal. On doit pouvoir traiter les personnes qui ont... C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe terrible. Donc on dit que ces gens sont irresponsables.
Donc les gens qui sont en prison.
Qui sont internés.
Ils sont internés en prison, quoi.
C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'internement, ouais. Malheureusement. Pour parler autrefois, une autre fois, du plus général, mais donc tu es face à des personnes qui ont commis une infraction, un délit ou un crime parce qu'ils étaient dans un état mental où ils n'avaient plus de discernement, où leur discernement était altéré. Hein? Et donc comment ça se fait qu'ils se retrouvent en prison?
Je fais une petite parenthèse. À mon avis, il va y en avoir de plus en plus des gens comme ça.
Oui.
Parce que dans la vie réelle, là, c'est le chaos, hein, déjà. Tu vois ce que je veux dire?
Mais il y en a de plus en plus. Je veux dire, ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'entrée en vigueur de la loi de 2016, on est redescendu à 800 internés en Belgique. On est à 1400 maintenant. Donc on a presque doublé en 10 ans une capacité qu'on pensait réduire.
Enfin, qu'est-ce que tu voulais dire en disant ça? Je t'ai coupé, moi, en faisant ma petite parenthèse. Je sais plus non plus.
Non,
je sais plus où tu parlais de... Ouais, je vois plus. Mais tiens, une bête, puisque tu vois plus. Moi, j'ai toujours mes questions. Mais entre une gauche et une droite, sur ces années... moi, j'ai pas tout le temps été politisé, là. C'est un peu neuf, quoi. Enfin, j'exagère en disant ça, mais de m'intéresser, tiens, mais de réaliser que quand c'est la gauche au pouvoir, est-ce qu'on voit une différence entre la gauche et la droite avec ce qui se joue aujourd'hui et ce qui s'est joué avec le dernier gouvernement, là, derrière nous?
C'est-à-dire que la seule corrélation qu'on connaît entre la population carcérale, donc le nombre de gens qui sont en prison, la corrélation certaine, on n'en a aucune autre, c'est la situation socio-économique. Donc plus une société est en crise, plus tu auras de gens en prison. Puisque, Michel Foucault le disait, la prison, c'est une gestion de la pauvreté. Et là, ma crainte, c'est vu les mesures qu'ils prennent, le gouvernement actuel, il paupérise toute une partie de la population, où il y a un risque de paupérisation d'une partie de la population. Que vont faire les gens pour se débrouiller? Ils vont commettre des délits.
Normal, quoi. La débrouille. Moi, je ferais pareil.
C'est la survie.
Si je dois survivre, t'inquiète que... Bien sûr.
On va chercher du pain quelque part, on s'arrangera.
Le vol, je me débrouille.
Et donc, c'est un peu le... Mais ça vient... Ce qui est pervers, quelque part, c'est que ça va venir soutenir leur discours sur le fait qu'il faut maintenir la prison. Ils créent les conditions pour... Parce que on est un des 13e pays les plus riches du monde. Hein ? On a l'Espagne qui a une politique totalement à l'inverse de chez nous, avec de meilleurs résultats. Donc, avec des politiques sociales, de soutien, des choses comme ça. Pourquoi ils choisissent ces voies-là actuellement ?
Pour faire marcher cette économie souterraine, pour créer des problèmes, en fait. Enfin, je veux dire, par là, que ça... Je trouve que ça ne sert à rien de se dire « Mais pourquoi font-ils... » Il y a une volonté... Ils n'ont rien à foutre. Enfin, je veux dire, c'est bien ça, l'idéologie. C'est entre, par exemple, une gauche et une droite. Nous, l'humain, c'est l'individu qui compte. Tu manges ta mère, tu écrases ton frère, ta soeur, on s'en fout. Enfin, tu comprends ? Je veux dire, c'est une société hyper dure... Les pauvres, on les enferme, les fous aussi, tu fais marcher la machine, quoi, et tu fermes ta gueule. Et une société un peu plus, je pense que un peu plus solidaire, où on partage, où on prend un peu plus de temps, où on... Bah, tu vois, c'est deux visions du monde, et s'ils font comme ils font, c'est parce qu'ils le décident et ils le veulent bien. Enfin, voilà, il faut vraiment bien, il faut pas avoir peur de se dire ça, quoi, et c'est ça qui est hyper violent.
Mais aussi que toutes ces politiques, quand on les entend, c'est au doigt mouillé. Moi, j'appelle ça au doigt mouillé. Parce que... ou alors, c'est intentionnel. Quand tu dis que c'est pas pour toi. Mais quand on entend certains politiques qui parlent de la prison et qui disent, voilà, gna gna, ceci, cela, même des hauts magistrats, même des juges actuels... Je pense qu'ils n'ont jamais... On a d'excellents universitaires, on a d'excellents chercheurs dans notre pays. Il y a des chercheurs autour de nous, en France, en Hollande. Tout le mouvement de criminologie critique qui vient de Finlande. Parce qu'on peut aussi regarder les exemples des autres pays. La Finlande, en 30 ans, a réduit sa population pénitentiaire de 30%, je pense. Mais ils n'ont pas fait n'importe quoi. Ils ont travaillé sur l'éducation, ils ont travaillé sur les médias, ils ont travaillé... sur toute une série d'aspects de la société. Et c'est un des pays, maintenant, on dit, où il fait le mieux vivre. Donc, il y a une corrélation, probablement, il faudrait l'étudier, mais il y a une corrélation entre le bien-être de la population et le nombre de gens en prison.
Tu m'étonnes. Bon, Serge, de toute façon, c'est pas en une émission de 45-50 minutes qu'on peut... Mais ce qui est génial, c'est qu'avec cette semaine nationale sur la prison, moi j'ai rencontré Gwenola Ricordo, que je connaissais pas du tout. Voilà, j'invite les gens à aller, on a pu enregistrer, faire une...
Aller sur son site, Gwenola Ricordo en un mot.
Écrit plein de bouquins.
Oui, .com. Et là, on trouvera en fait toutes les interviews. Donc, elle recense toutes les interviews qu'elle a faites. Elle a les bouquins qu'elle a écrits, effectivement. 5, 6 bientôt. Et alors, tous les écrits aussi qu'elle a faits pour des colloques ou des choses comme ça, on peut les retrouver. Mais Gwenola étant quelqu'un qui fait beaucoup de recherches sur la question, il y a aussi à les refouiller d'où ça vient. Je veux dire, l'abolitionnisme pénal, par exemple, c'est Neil Christie, c'est Ruth Morris, c'est Luke Hulsman, c'est Angela Davis, c'est tous ces gens. Et de ne pas hésiter en partant, parce que Gwenola a écrit un bouquin qui s'appelle Le Dictionnaire de l'abolitionnisme. Donc, il y a un livre qui vient rassembler toutes les théories, et puis après, on peut aller élargir et fouiller un petit peu sur tout ce qui existe. Voilà. Je crois que là, prendre temps, c'est prendre soin, avant tout, de tout le monde. Voilà.
Merci beaucoup à toi, Serge, d'avoir pris le temps, là. Merci à toi.